Vous écoutez Europe 1, il est midi.
Tout dépend un peu de nous. Si on fait les choses correctement, je pense qu'on n'aura pas de deuxième vague. Mais si on ne fait pas les choses comme il faut, on aura une deuxième vague. C'est absolument inéluctable.
Tout dépend de nous et donc de notre comportement. Le professeur Éric Combes, qui a été au front sur le coronavirus depuis le mois de mars, veut alerter sur la possibilité d'une deuxième vague.
Un dossier complet dès le début de ce journal. Nous entendrons aussi ce même médecin témoigner des clusters dans les hôpitaux. 269 cas groupés depuis le 9 mai, prévient la Direction Générale de la Santé. Invité de ce journal, Bruno Lina, virologue, membre du Conseil scientifique. On abordera aussi la question des tests. 700 000 à notre disposition, mais uniquement 150 000 utilisés.
C'est aujourd'hui que la commission d'enquête sur le Covid auditionne le professeur Didier Raoult. Le rapporteur Éric Ciotti veut comprendre le succès de l'IHU de Marseille sur les tests.
Je serai attaché à lui demander comment il a réussi à tester beaucoup plus massivement, précocement, systématiquement.
Et nous recevrons le professeur Jean-Michel Constantin, réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pour lui, Raoult, ce n'est que du marketing au prix de la vie des Français. Dans ce journal également, un nouveau sommet social à l'Élysée. Deux choses à régler, la réforme de l'assurance chômage et le chômage partiel. Le carton des locations de piscines entre particuliers par ces saisons de grande chaleur. Et puis à 12h30, nous ouvrirons une page sur le cas Djokovic, l'international de tennis, testé positif au Covid-19. Imprudence prématurée, dit Cédric Pioline.
C'est un dur retour à la réalité. Et attention à l'excès de confiance, attention au retour de bâton.
Mais n'est-ce pas aussi dû à la personnalité de ce joueur atypique? Nous ferons son portrait avec Franck Ramella, notre confrère de l'équipe qui le suit depuis ses débuts. La météo, Céline Dacosta, encore un ciel bleu et beaucoup de soleil.
Oui, on aura juste quelques orages en fin de journée sur les Alpes et les Pyrénées. Côté température, ça grimpe encore, une moyenne de 27 à 34 degrés.
Merci Céline Dacosta. Météo complète juste avant 13h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Depuis le début de la semaine et notamment les images des rassemblements lors de la fête de la musique, l'inquiétude quant au retour du coronavirus à l'automne se précise.
Cette fameuse deuxième vague, le professeur Éric Combes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, était l'invité d'Europe 1 ce matin. Pour lui, c'est totalement binaire, soit on fait attention et tout se passera bien. Dans le cas contraire, vous connaissez la suite.
Tout dépend un peu de nous. Si on fait les choses correctement, je pense qu'on n'aura pas de deuxième vague. Mais si on ne fait pas les choses comme il faut, on aura une deuxième vague. C'est absolument inéluctable. Il y a nous, individus, les précautions, les gestes barrières, le masque. Et puis il y a nous, collectivité. Effectivement, c'est ce qu'on résume par les trois verbes tester, tracer, isoler. Et la question qu'on doit se poser, c'est-à-dire est-ce que on fait ça correctement aujourd'hui, tester, tracer, isoler. J'en suis pas sûr.
L'infectiologue Éric Combes ce matin avec Sonia Mabrouk. Pauline Jacquot, voilà ce qui en substance plane au-dessus de nos têtes. Mais est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus?
Eh bien, ça va dépendre. Est-ce que la France va maîtriser ses clusters? Si la réponse est non, alors il faudra faire comme en Allemagne, reconfiner localement. Selon l'épidémiologiste Antoine Flao, pour le moment, peu probable que la France doive reconfiner une partie de sa population. Il relativise les images des foules lors de la fête de la musique.
Des rassemblements à l'extérieur ne sont pas très générateurs de ces clusters que l'on enregistre de ci, de là, qui sont plutôt ou en entreprise, en milieu clos, parfois dans des familles, parfois dans des EHPAD ou des services médicaux, mais plutôt dans des milieux fermés, pas très ventilés, que dehors dans la rue. On peut minimiser encore plus ce risque en portant dans ces situations-là un masque. Ça diminuera considérablement le risque de cluster dans ces manifestations.
Alors aujourd'hui, il y a 239 clusters en France. Un tiers sont en cours d'investigation, tous les autres sont maîtrisés. En France, l'avenir de l'épidémie, dit-il, dépendra surtout du nombre d'enquêteurs. Il faut absolument qu'ils soient suffisamment nombreux pour tracer les cas contacts et puis bien sûr ne pas se laisser déborder par l'épidémie.
Merci Pauline Jacquot.
Autre question, les tests. Il s'avère qu'entre les objectifs du gouvernement et la demande de dépistage constatée, il y a un fossé, 700 000 tests disponibles, mais uniquement 150 000 utilisés.
Et le problème, eh bien, c'est que ces tests ont aussi une date de péremption. Reportage de Romain Oquet.
Il y a des pays qui manquent de tests, c'est une catastrophe. Nous, d'en avoir trop sur les bras et de devoir plus tard en jeter, c'est pas tolérable.
Environ trois quarts des tests commandés patientent dans les congélateurs des laboratoires privés. L'épidémie a ralenti, les demandes de dépistage ont donc baissé. Des investissements perdus, regrette Lionel Barrand, président du syndicat des jeunes biologistes.
Les laboratoires sont dans une difficulté économique. Si on a plusieurs centaines de milliers de réactifs sur les bras à 30 euros le réactif, on est à plusieurs millions. Et pour les machines, c'est pareil. C'est l'État qui commande et c'est les laboratoires qui ont pris l'ensemble du risque financier. Et Et ça, c'est pas logique.
Des tests bientôt inutilisables. Dans l'un des principaux groupes de laboratoires, la moitié du stock sera périmé en octobre. L'urgence, c'est donc de les écouler durant l'été. Mais la loi interdit la revente en France, précise François Blanchecotte. Alors le biologiste mise sur l'export.
Nous devons absolument nous en séparer. On a des demandes extrêmement fortes sur l'Amérique du Sud, ou même l'Angleterre. Il y a des discussions avec des laboratoires étrangers qui veulent les acheter.
La Direction Générale de la Santé ne s'oppose pas à ces remises sur le marché. Des transactions qui resteront tout de même sous surveillance, car nous dit-on, ces laboratoires doivent conserver un stock dans l'hypothèse d'un retour de l'épidémie.
Roman, ok, on va réentendre, si vous le voulez bien, le professeur Eric Combe, qui était, je vous le rappelle, l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. Et cette fois-ci, vous avez peut-être tombé de votre chaise, vous qui peut-être pensez que tout cela est derrière nous. Écoutez-le lorsqu'il parle des clusters dans les hôpitaux et de l'urgence dont lui font part ses collègues.
Je suis un peu inquiet parce que je trouve qu'on n'a pas pris correctement les enseignements de cette première vague épidémique. Et quand je vois par exemple que j'ai des collègues qui m'appellent dans des hôpitaux pour me demander comment gérer des clusters dans leurs hôpitaux et qu'apparemment ils ne savent, ça ne se fait pas bien, ben, je pense qu'il y a un vrai problème. Je me demande même si on a vraiment compris le message.
C'est grave ce genre d'appel à ce que vous nous dites ce matin.
Ben oui, mais
c'est la réalité de la situation.
Je dois avouer que la première fois qu'on m'a appelé la semaine dernière, bon, je me suis dit que oui, ça arrive, des erreurs ou des manques. Mais là, on m'a réappelé encore deux fois cette semaine, depuis le début de la semaine, alors qu'on est que mercredi. Et donc, je vois bien que c'est pas... Même nous, dans l'hôpital, on n'arrive pas à bien gérer nos cas. Alors, vous imaginez à l'extérieur.
Bonjour Brunelina.
Bonjour.
Vous êtes virologue, membre du Conseil scientifique. Merci d'être en direct sur Europe 1. Alors d'abord, sur ces cas dans les hôpitaux, c'est extrêmement inquiétant que les médecins ne savent pas comment gérer les situations, leur propre situation.
Alors, il faut bien comprendre que si les médecins appellent à l'aide, c'est qu'en fait, il y a dans les hôpitaux une reprise de l'activité normale, ce qui est nécessaire, hein, puisqu'on sait qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient en attente de pouvoir revenir à l'hôpital pour des histoires de cancer, pour des histoires, enfin, des choses qui sont très importantes et on a pris du retard. Ouais. Voilà. Et donc, on revit finalement une période qui était la période où il va falloir faire coexister en même temps potentiellement des patients qui sont infectés par le coronavirus et ces patients pour lesquels il faut qu'on fasse cette prise en charge. Et c'est vrai que cette situation, elle est un petit peu nouvelle et grâce à l'expérience de l'épidémie et de ce qu'a géré l'hôpital public comme l'hôpital privé, on sait qu'il y a un certain nombre de mesures qui permettent de contrôler. Et je pense que les signaux et les éléments que viennent chercher les équipes, c'est justement quelles sont les meilleures méthodes pour pouvoir faire coexister dans un même service des patients qui ont besoin d'être hospitalisés parce qu'ils ont une pathologie et ceux qui sont en même temps ou à côté de ça infectés par le coronavirus.
Mais là encore,
il y a besoin d'un peu d'aide.
Mais là encore, Brunelina, on s'interroge parce que j'ai envie de vous demander, là encore, on n'a pas anticipé.
Mais on a appris des choses, on a anticipé, mais après il y a le déploiement de ce qu'il est nécessaire de faire. Et c'est vrai qu'il y a un niveau de préparation qui est hétérogène. Dans certaines structures, certains sont mieux préparés que d'autres. Et on est actuellement dans une situation où, heureusement, même si on pourra peut-être reparler de ces fameux foyers d'infection, on n'est pas dans une recrudescence massive de ces foyers d'infection. Donc on arrive à gérer cette situation, mais il y a le contexte particulier de la coexistence des deux patients, des deux types de patients, infectés et non infectés, qui est un petit peu nouveau et pour lequel, justement, il faut qu'on commence à se mettre en place une doctrine d'utilisation et de bien gérer les deux, c'est-à-dire à la fois gérer ces deux types de patients et le risque de dissémination ou d'absence de dissémination du virus. Les mesures qui avaient été utilisées sont efficaces, elles resteront efficaces.
Justement, sur ces foyers de contamination, on en dénombre combien ? Est-ce qu'on arrive à chiffrer ?
Alors oui, il y a un état des lieux. Alors je peux vous donner un chiffre, mais ce chiffre il est aux alentours de 200 au total. C'est dans le rapport de Santé publique France qui est fait quotidiennement, qui explique le nombre de foyers qui sont en cours d'investigation et qui sont résolus. On voit que en termes de dynamique du nombre de foyers investigués, on est sur quelque chose de relativement stable. Il n'y a pas d'augmentation du nombre de foyers, il n'y a pas d'augmentation du nombre de cas à l'intérieur des foyers non plus. Mais c'est un signal extrêmement important qui nous dit bien que le virus continue à circuler.
Ben c'est ça.
Et que quand on passait des messages disant même si l'été freine la diffusion du virus, ça n'est pas l'été qui le fait disparaître, c'est notre comportement.
Alors le virus continue de circuler, Bruno Lina, on a tous peur d'un reconfinement, on le craint, comment l'éviter ?
Alors, moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Eric Combes. C'est, si on veut l'éviter, il faut qu'on se donne les moyens, nous. C'est individuellement hein, que ça se joue. Il faut qu'individuellement, on se donne des moyens de l'éviter. Donc, si on a peur que ça arrive, il faut qu'on se donne les moyens de l'éviter.
On ne va pas rester enfermé à la maison.
Donc, non, mais ce n'est pas ce que vous faites actuellement. Il y a les mesures d'hygiène, les mesures barrières et les mesures de distanciation physique. C'est remarquablement efficace. Ça marche très bien puisqu'on voit qu'en période de sortie de confinement, ça fait maintenant pratiquement 5 semaines que l'on n'est plus confiné. Ça fait 5 semaines que le nombre de cas régresse. Ça montre bien qu'en utilisant ces mesures, encore jusqu'à présent, ça a permis de contrôler cette épidémie. Donc si on continue à le faire, il n'y a aucune raison qu'il y ait une réversion.
Vous avez entendu Eric Combes, Bruno Lima, quand vous entendez le professeur Flao dire « Oui, mais la fête de la musique, non, c'est à l'extérieur. » Enfin, pardon, mais on a tous vu les images des gens les uns sur les autres. J'allais dire se vomir dessus, mais ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, c'était quand même... Les uns sur les autres, comment est-ce qu'on peut dire que c'est à l'extérieur, donc il y a moins de risques que dans une entreprise quand on est à un mètre les uns
C'est une analyse de risque. C'est une analyse de risque. C'est-à-dire que cette fête de la musique, elle aurait eu lieu dans un espace confiné, ça aurait été une prise de risque majeure, inacceptable et répréhensible, mais je le dis de façon très très forte. Là, on était dans une situation où on n'était pas à l'intérieur. Il est certes pas acceptable que ça se reproduise. Maintenant, c'est un événement. Une fois, c'est pas ça qui va tout faire basculer.
On verra dans 15 jours.
A priori, exactement. Non, c'est là où je vous parle de comportement collectif. C'est-à-dire que on comprend bien toute l'envie qu'il peut y avoir derrière la reprise de cette vie sociale, mais il faut qu'on soit extrêmement prudent. Il faut aussi regarder que on imagine des scénarios qui sont défavorables, mais c'est pas forcément celui-là qui va arriver. On a les moyens justement d'éviter.
Alors Bruno Lina, vous nous parlez des comportements responsables individuels. Nous sommes d'accord. Maintenant, il faut aussi s'attarder sur le nombre de tests. Le nombre de tests qui ne sont pas utilisés alors que l'Allemagne ou d'autres pays testent massivement. Nous, on attend quoi ?
En pratique, si vous voulez, on ne va pas faire des tests pour faire des tests. Hein. On fait des tests et sachez que la doctrine de l'utilisation des tests, c'est quelque chose qui a été discuté de façon abondante. Il a été dit qu'on était théoriquement en capacité de faire jusqu'à 500 000 tests par semaine. Donc on voit que le stock qu'il y a actuellement, s'il court jusqu'à la fin du mois d'octobre, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas utilisé à bon escient. L'idée, c'est pas de faire des tests pour des tests. Mais lorsqu'une personne... Et là, de nouveau, on repart sur la responsabilité individuelle. J'explique. Il faut que ceux qui soient malades, ceux qui ont des symptômes, se fassent tester. Et il faut que ceux qui sont en contact se fassent tester. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens symptomatiques, malades, qui ne vont pas se faire tester. Et donc derrière, tout le contact tracing qui est nécessaire à mettre en œuvre ne se fait pas. Et dans ces conditions, il y a un risque de réapparition du virus. Donc on voit que le dimensionnement et les outils qui ont été mis en place pour pouvoir faire ces tests très rapidement, il faut qu'ils soient utilisés par ceux qui en ont besoin.
Donc,
et on essaye de faire des démarches. C'est une amarche de responsabilité individuelle. Exactement.
Comment faire passer le message, Bruno Lina ? Est-ce qu'il faut faire une campagne à nouveau, comme on a eu au mois de mars, sur « allez vous faire tester, appelez le 15 », allez voir votre médecin, ne prenez pas de risques. On l'entend plus, ça. On n'a plus les messages à la télévision, à la radio, dans la presse écrite. Beaucoup moins.
Ça peut faire partie du message global qui est de dire effectivement, il y a un certain nombre de... Alors, il y a un certain nombre de foyers qu'il faut investiguer très vite. Donc là, on a besoin des tests. Mais il y a du dépistage qui peut se faire sur les cas suspects et tous les clusters qui sont... Pardon, les foyers qui sont identifiés permettent de voir qu'il y a un certain niveau de tests qui a été fait. On a dimensionné ça qui est aujourd'hui sous-utilisé, mais il faut qu'on les réutilise, il faut que les patients aillent se faire tester, et aujourd'hui c'est fait de façon insuffisante. Effectivement, recommuniquer autour de ça serait très utile aussi.
Merci beaucoup pour votre appel et merci de ces explications très claires, professeur Bruno Lina. Merci d'avoir été en direct dans Europe Midi.
Il est midi 15.
Europe 1.
Une première pause et dans un instant, autre situation inquiétante en Guyane, de nouveaux cas, et l'Allemagne qui reconfine totalement. À tout de suite.
Il est midi 17, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag.
La France déconfinée et pourtant, Guyane, la situation sanitaire reste très préoccupante. 135 nouveaux cas en 24 heures, 2600 malades et la proximité avec le Brésil très durement touché par la maladie.
Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, est sur place. On est à deux doigts d'un reconfinement. Mais pour le député Gabriel Serville, c'est la dernière chose à faire.
Si le confinement généralisé entraîne des avantages, il apporte aussi son lot de désolation en termes sanitaires, en termes psychologiques, en termes social, sociétal et surtout en termes économiques. Donc je pense que la Guyane, c'est un territoire qui, comme Mayotte, a déjà suffisamment souffert de tous ces retards d'équipement, ces retards d'équipement infrastructurel, ces retards à l'allumage pour l'éducation, pour l'accès à la santé, pour l'accès aux services publics, pour l'économie. Et donc, de mon point de vue, il faudrait mesurer véritablement l'impact que pourra avoir un reconfinement généralisé de la Guyane pour ne pas commettre une erreur qui serait totalement irréversible.
Gabriel Serville, député de la Guyane avec Pierre Herbulot.
Pays voisin de la métropole, l'Allemagne, eh bien, elle reconfine localement 640 000 habitants de deux cantons de l'ouest du pays.
En cause, la contamination dans les abattoirs du coin avec 1600 cas positifs recensés en quelques jours. Les écoles, les bars, les clubs de sport, c'est terminé. Pour l'instant, pour une semaine, mais tout cela était prévu en cas de retour de la maladie. Explication à Berlin d'Hélène Kohl.
Ce reconfinement local, c'est l'application d'une stratégie ordonnée par le gouvernement allemand mi-mai. Si jamais, dans une localité, les chiffres de contamination dépassent de nouveau les 50 cas pour 100 000 habitants, alors il faut placer sous cloche tout l'arrondissement administratif. Cette habitante est fataliste.
D'un point de vue purement rationnel, toute émotion mise de côté, c'est une bonne chose. Mais en réalité, pour nous tous, c'est terrible. On reprenait goût à la liberté et voilà que tout ferme à nouveau.
Sven-Georg Adenauer, qui dirige le canton, reconnaît que la décision a été difficile à prendre.
C'est une mesure indispensable, même si elle nous pèse très lourdement. Mais nous devons faire tous les efforts nécessaires pour éviter que le virus se propage au reste de la population.
À l'heure actuelle, il n'y a aucune contamination en dehors des salariés de l'abattoir et de leur famille. Ce sont des saisonniers roumains et bulgares qui sont logés par l'entreprise en dehors de la commune, dans des immeubles souvent insalubres. Toute la filière de la viande est montrée du doigt. Cela fait des années que les syndicats allemands alertent sur les conditions de travail et de vie de ces salariés étrangers intérimaires. C'est la cinquième fois en deux mois qu'un foyer de Covid se déclare dans un abattoir en Allemagne. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Reconfinement également à Lisbonne, la capitale du Portugal. Une situation aussi à surveiller du côté de la Suède qui, souvenez-vous, avait pris le pari de ne pas confiner, mais de miser sur l'immunité collective.
En France métropolitaine, pas de reconfinement à ce stade, mais vous l'avez peut-être remarqué, les écoles qui ont repris lundi, eh bien, ferme tour à tour.
En fait, dès qu'il y a un cas de Covid, soit on ferme, soit on exfiltre. Mais le pire, c'est que tout ça n'est pas du tout clair. Les responsables pédagogiques n'ont aucune information précise du ministère, comme l'illustre très bien Aurélien Boudon, co-secrétaire de Sud Éducation.
On a l'impression qu'il y a une sorte d'omerta de l'administration, puisqu'il y a un refus de communiquer aussi bien dans les instances représentatives des personnels, des bilans clairs du nombre de cas dans les établissements scolaires, du nombre d'écoles qui ont dû être fermées. Et quand il y a des suspicions, il y a très peu d'informations qui sont faites d'une part aux familles, d'autre part à la communauté éducative de l'établissement. Et il y a une volonté un peu de passer sous silence. Voilà, les premières consignes quand il y a suspicion, c'est surtout vous ne dites rien, vous n'en parlez à personne et vous continuez à faire comme si ne rien n'était. Si vous avez un personnel qui est malade, on va lui dire de rentrer chez lui, de se faire tester. Et pendant ce temps-là, l'école va continuer à fonctionner, les personnels vont continuer à accueillir les élèves, alors même qu'ils ont pu être en contact avec le personnel qui est concerné par la suspicion. Actuellement, c'est plutôt ça qui se passe et ça nous inquiète. C'est-à-dire que le personnel, dans l'attente du résultat de son test, tout le monde continue à se rendre sur son lieu de travail. Et nous, on a peur que cela génère et recrée des chaînes de contamination.
Aurélien Boudon, co-secrétaire de Sud Éducation sur cette omerta avec Mathieu Bock.
Il est midi 22.
Encore une pause et dans un instant, la grand-messe du professeur Didier Raoult. A tout de suite.
Il est midi 24, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag.
C'est cet après-midi que le controversé professeur Raoult, chanteur de l'hydroxychloroquine, sera auditionné par les députés.
Commission d'enquête très attendue à l'Assemblée nationale, c'est à 17h précisément. Et pour les députés, l'auditionner, c'était une évidence, Claudia Bertrand.
Effectivement, car le rôle de la commission, c'est justement d'entendre toutes les visions sur la gestion de la crise, affirme la députée LREM qui la préside, Brigitte Bourguignon.
Il aurait été complètement anormal de ne pas auditionner le professeur Raoult qui a fait partie du paysage de cette crise sanitaire.
Le rôle du professeur marseillais et les polémiques durant la crise justifient d'autant plus son audition, estime le socialiste et vice-président Boris Vallaud.
Il y a eu des controverses sur l'efficacité ou pas de la chloroquine. Et donc il est important qu'on puisse comprendre les choses. Il ne s'agit pas de décerner de brevets aux uns et aux autres, de disqualifier ou qualifier tel ou tel.
Le professeur Raoult sera aussi interrogé sur son retrait du conseil scientifique ou encore sur les tests. Certains affirment que le bilan de l'IHU de Marseille est meilleur que dans le reste du pays. Et le rapporteur LR Éric Ciotti veut comprendre pourquoi.
Le manque de tests a été un des défauts majeurs de notre pays. Je serai attaché à lui demander comment il a réussi à tester beaucoup plus massivement, précocement, systématiquement.
La commission veut entendre un maximum d'acteurs scientifiques et politiques. Demain, par exemple, c'est le professeur Karine Lacombe, très critique envers Didier Raoult, qui sera auditionné.
Merci Claudia Bertram. Et nous suivrons bien sûr tout cela dans le 18-20 d'Europe 1. Bonjour professeur Jean-Michel Constantin.
Bonjour.
Chef de service de l'anesthésie de la réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous pouvez en témoigner, hein, vous, des malades qui ont pris de l'hydroxychloroquine, parfois associée à l'azithromycine. Vous en avez vu arriver dans votre hôpital?
On en a vu beaucoup, on en a fait, parce que le rationnel n'était pas inintéressant. On a été très déçus sur les patients de réanimation et ce qui a été confirmé par les quelques rares études qu'on a pu trouver, c'est-à-dire que ça ne marchait pas chez ces patients-là. Et puis on a vu des effets secondaires quand même en plus.
Quels effets ? Cardiovasculaires principalement ?
On a eu des effets cardiovasculaires, on a eu un petit peu des quelques effets neurologiques. Et surtout, on n'avait pas de diminution. Pour les patients qui avaient une charge virale, c'est-à-dire qu'il y avait encore du virus dans les poumons, on n'avait pas de diminution de la charge virale, donc on a arrêté.
Mais le professeur Raoult a toujours dit qu'il fallait donner ce traitement en début de maladie. Là, vous avez peut-être vu arriver des patients qui étaient déjà à 10 jours ou 14 jours après les premiers symptômes, donc ça a peut-être été mal administré aussi.
Complètement, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en a pas fait pendant très longtemps. Après, je crois qu'il faut remettre un peu de rationnel dans tout ça et ne pas tomber dans la polémique. Il y a une tribune hier aujourd'hui, la Société française de maladies infectieuses qui me semble très intéressante. Si vous voulez, globalement, on a besoin d'apaiser un peu le débat. Je crois que le débat sur la chloroquine, il est terminé. Les essais randomisés, contrôlés, qui ont été faits au tout début sur des patients un peu plus graves ou sur des patients encore plus graves, montrent que ça ne marche pas. Il n'y a aucun effet de l'hydroxychloroquine. Je crois que sur un plan scientifique, le débat est clos.
Donc, le professeur Raoult, c'est quoi? C'est du marketing?
Je crois qu'il est un peu enlisé dans cette situation. On ne peut pas faire, aussi brillant soit-il, parce qu'il n'y a aucun doute sur les qualités du professeur Raoult, que moi je connais depuis très longtemps, que j'ai eu la chance d'avoir comme prof il y a plus de 20 ans. Il n'y a aucun doute sur ses qualités scientifiques. Par contre, on ne peut pas du jour au lendemain décider qu'un traitement marche juste parce qu'on l'a dit. Or, ce qu'il fait, c'est juste ça. C'est dire, moi, regardez ce que je fais, c'est mieux.
Oui, ce qu'il dit, c'est que ce que je dis, c'est vrai. Hein. C'est ce qu'il a dit dans plusieurs interviews.
Complètement. Ouais. Mais ça, on ne peut pas. Ce n'est pas possible.
Si ça a été votre prof de médecine, ça vous étonne qu'ils prennent ce genre de position, qu'ils disent, attendez, c'est moi je suis le Mozart, j'ai le diplôme. Vous l'avez entendu, comme tous dans ces interviews. Est-ce que ça vous étonne, ce comportement?
Je crois que c'est un comportement qui est un peu déviant et qui ne sert à rien à part alimenter de la polémique. Alors, il n'est peut-être pas très surprenant venu de lui.
C'est une personnalité aussi.
Mais bien sûr, c'est une personnalité. Mais attendez, on n'est pas en train de parler de spectacle, de politique, de philosophie. On est en train de parler science et médecine et on ne peut pas dire n'importe quoi. Je crois que nous sommes hospitalo-universitaires, nous sommes des scientifiques, on a un devoir de réserve. Qu'entre nous, dans des congrès, on discute de façon très aiguë certains points parce qu'on n'est pas d'accord, le temps d'avoir le résultat des études, c'est notre métier. Je crois qu'on a un devoir de réserve quand on s'exprime à la presse et on ne peut pas mettre tout sur le tapis et surtout tout et n'importe quoi comme c'est fait en ce moment. Et le professeur Raoult n'est pas le pire dans ce domaine-là.
Merci beaucoup, professeur Jean-Michel Constantin, d'avoir été avec nous dans Europe Midi.
Europe 1.
Une nouvelle pause et dans un instant, le cas Djokovic. Vous le savez, l'international de tennis a été testé positif. Eh bien, cette affaire révèle bien des choses. À tout de suite. Europe 1. Il est midi 30 de la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag.
Et nous allons maintenant ouvrir une page sur le cas Novak Djokovic. Vous le savez, l'international de tennis a été testé positif au Covid-19. Mais cette affaire révèle bien des choses à son sujet.
Oui, et d'abord le numéro 1 mondial s'est excusé hier soir, reconnaissant avoir eu tort avec les organisateurs de programmer l'Adria Tour. Corinne Boulouse, ça jette un coup de froid à moins de 2 mois maintenant de la reprise du circuit professionnel. On va quand même pas tout remettre en cause.
Pour le moment, non, mais c'est vrai que l'image d'un Novak Djokovic souhaitant donner l'exemple d'une reprise avant l'heure pour donner un coup de pouce aux joueurs en difficulté dans les Balkans a fait flop. Sa tournée de match-exhibition a été brutalement interrompue en raison de contaminations multiples. Inconscience pour les uns, négligence pour les autres, surtout un manque évident de précautions sanitaires, sans masque, sans aucune distance, comme si de rien n'était, alors que le numéro 1 mondial aurait dû être irréprochable. Cette affaire rappelle que nul n'est à l'abri quand il s'agit du Covid-19. À l'heure où les tournois s'organisent pour accueillir les tournois à partir du mois d'août, il convient de rester prudent, comme le rappelle notre consultant Cédric Pioline.
Oui, c'est un dur retour à la réalité. Et attention à l'excès de confiance. Alors, attention au retour de bâton. C'est un petit peu ce qui s'est passé là, malheureusement, lors de l'événement de Djokovic. Mais bon, je crois que c'est un bon signal d'alarme pour les semaines et les mois à venir. Ça va permettre aux organisateurs d'affiner encore plus les précautions sanitaires qu'il faut prendre. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué d'être dans le zéro risque.
Oui, et en France, à la demande des autorités de santé, sachez que chaque tournoi devra nommer un responsable Covid en plus d'un protocole sanitaire strict à respecter.
Merci Corinne Boulou.
Bonjour Franck Ramella.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste sportif à l'équipe et la particularité, c'est que vous suivez la carrière de Djokovic depuis le début. Alors d'abord, selon vous, comment vit-il cet épisode ?
Ah bah forcément très mal. Hein. Il s'est excusé 2 fois hier, donc la première c'était un petit résumé, la deuxième de manière un peu plus profonde. Donc il le vit mal, mais un peu sur la défensive. Son père a pris sa défense, ben, évidemment comme d'habitude, mais en jetant la pierre sur un autre joueur atteint, Dimitrov, en disant que c'était un peu sa faute. Donc le clan Djokovic repart un peu à l'offensive en essayant d'atténuer ses propres fautes.
Il le dit, c'était trop tôt, hein, cet Adria Tour Djokovic, mais il voulait se démarquer, une fois de plus, se démarquer. C'est ce qu'il tente de faire depuis qu'il est joueur professionnel.
Alors, il a voulu faire 2 choses, oui, montrer qu'on pouvait organiser dans son pays quelque chose de sympa, ça c'est le bon côté, et après, effectivement, s'exonérer de certaines règles, parce que comme vous l'avez dit, voilà, il veut grimper, il est extrême en tout, en fait, hein, pour celui qui, comme vous avez dit, suit sa carrière depuis le début, c'est quelqu'un d'assez extrémiste, parfois dans le bon côté des choses, hein. Voilà, il va au bout de tout. C'est pour ça qu'il est arrivé à déboulonner les icônes Federer et Nadal. Ça, c'était un combat extraordinaire. Il va au bout de tout, de réflexions sportives, spirituelles, qui en font un champion bien à part.
Vous parlez de Federer et Nadal. Par rapport à ces deux-là, lui, il est présenté comme le méchant. Mais il faut dire que ce n'est pas forcément une excuse, mais son enfance a été terrible quand même.
Tout à fait. Donc non, mais sa vie est un roman bien plus que d'une certaine manière.
Vous allez écrire un livre sur lui ? Vous pourriez.
On pourrait, plein d'autres. Non, mais c'est vrai, il est revenu de la guerre, il s'est fait tout seul dans un pays qui n'était pas du tout lié au tennis, d'une certaine manière. Il s'est
comment
fait dans
ça
ce combat.
Ses parents lui ont mis une raquette entre les mains en disant « maintenant tu vas devenir le numéro 1 mondial de tennis ?»
Non, pas du tout. Il faisait du ski. Il était dans une station de ski en Serbie avec des parents qui tenaient une pizzeria. Donc c'est devenu un champion de tennis sans gluten. Il est passé par toutes les émotions. Non, mais extrémiste dans le yoga, dans la nourriture, pour fêter son titre à l'Open d'Australie, un de ses titres, il s'était accordé le droit d'un seul carré de chocolat. Il fait des étirements de manière systémique qui font que c'est un homme élastique. Il a des techniques de respiration. Voilà, quoi. C'est vraiment quelqu'un. Mais il va tellement loin que parfois, on peut effectivement, ça interpelle sur sa personnalité. Il a vécu un confinement assez particulier, d'une certaine manière.
Cédric Pioline, notre consultant, parlait d'un excès de confiance. C'est le cas pour Djokovic ?
En l'occurrence, là, sur ce point précis, ils se sont peut-être emballés. Il n'était pas tout seul. Les autres joueurs ont exactement fait les mêmes choses que lui. Donc, ce sont tous des grands garçons. Il y avait 4000 personnes dans le stade. Donc, c'est pas lui qui a demandé aux 4000 personnes de venir. Donc, il y a eu effectivement les excès incroyables dans cette boîte de nuit. L'absence totale de protocole, dont il est effectivement l'un des responsables. En l'occurrence, sur ce simple action, on ne peut pas dire qu'il est trop sûr de lui.
Non.
Je pense que, dites-moi.
Non, je voulais vous poser la question par rapport à ce que vous disiez sur son côté extrême, sur la façon dont il voit les choses. Est-ce que vous-même ou un autre journaliste lui a déjà posé la question les yeux dans les yeux? Pourquoi tout ça? Ou est-ce que c'est fermé à double tour? Il ne répondra jamais à cette question.
Alors il répond, mais alors il répond souvent par des longs monologues qui durent 5 minutes, donc qui noient un peu la chose, mais parce qu'il s'embarque, je pense, à chaque fois lui-même dans sa propre réflexion, mais qui peut être aussi spirituelle. Mais alors parfois on le voit faire des choses. Ce confinement là un peu effectivement, son image s'est dégradée. Il a fait des lives Instagram avec des ce qu'on peut appeler des gourous, hein, notamment sur un certain Sherwin qui parle de purifier l'eau avec des pensées positives. Donc Novak Djokovic lui a donné la parole assez longuement. Il a parlé à quelqu'un d'autre qui prône l'immersion dans les eaux glacées. Il s'est réclamé de cette frange anti-vaccin pendant ce confinement. Donc c'est vraiment une personnalité qui interpelle. Alors voilà, c'est un personnage assez clivant qui pousse sa logique à l'extrême.
Assez clivant, vous le dites, parce que c'est vrai que même ce matin, je dois vous avouer, dans la rédaction, il y avait un débat. Il y a des gens qui disaient « non, il est plutôt sympathique », enfin, des gens qui ont eu l'occasion de lui parler, d'autres qui disaient « ah non, c'est tout le contraire, il est très très méchant », et on en revient toujours à Nadal et Federer qui sont toujours très souriants, on a envie de leur taper dans le dos, quoi. Ils sont plutôt sympas, parce que Djokovic, il a ce côté un peu froid.
Bon, ça c'est une vision très très réductrice. Non, au contraire, Djokovic... On peut pas imaginer, il a fait des choses sur le terrain très drôles, il veut se faire aimer, ça c'est son combat, mais effectivement, il veut se faire aimer. Alors des fois, au tout début, on a dit que c'était maladroit parce qu'il en faisait trop, mais c'est un acteur sur le terrain. Au début, quand il faisait ses parodies, c'était assez, c'était bien joué, enfin, il se donne vraiment sur le court, il se donne même plus que Federer qui sur le court ne donne rien d'une certaine manière, qui laisse parler son jeu, qui est suffisamment extraordinaire lui-même. Mais non, on peut pas dire ça. Je pense pas que Nadal et Federer soient des gens parfaits et Djokovic un homme totalement imparfait.
C'est parce que j'ai dit. Quelle est la suite pour lui? Est-ce qu'il va justement continuer à essayer de se faire aimer, comme vous dites, ou est-ce qu'il va passer à autre chose?
Ah bah ça c'est son combat. Alors là maintenant. Il en a pris un petit coup, c'est sûr. Il était à la tête de la présidence du Conseil des joueurs. Certains parlent de démission. Non, je pense qu'il va continuer. Il mène un combat également politique dans le tennis. Il veut reprendre en main le cours des choses. Il s'investit également là beaucoup. Donc, il va continuer. Je pense qu'il a en lui ce goût du combat. Sur le terrain, je ne me fais pas de soucis sur le fait qu'il va revenir à fond.
Eh bien, merci beaucoup Franck Ramella, camarade de l'équipe. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi.
Il est midi 40.
Europe 1.
Une nouvelle pause et dans un instant, le chômage partiel, oui, mais jusqu'à quand? Et le deuxième jour des réquisitions dans le procès du Mediator. À tout de suite. Il est midi 43, à la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag. Nouvelle grande messe à l'Élysée cet après-midi. Le président convoque les syndicats et les partenaires sociaux.
Oui, 2 semaines après une première réunion avec un ordre du jour assez large du sort de la réforme de l'assurance chômage, l'emploi des jeunes, le régime spécifique des travailleurs détachés en Europe. Olivier Sama, on devrait aussi et surtout être fixé ce soir sur le nouveau dispositif du chômage partiel qui doit permettre à certains secteurs fortement impactés par la crise, et bien de ne pas sombrer.
Oui, des secteurs frappés par une forte baisse de leur activité, mais dont la pérennité pour autant n'apparaît pas menacée. On pense à l'aéronautique ou à l'industrie automobile. Les entreprises de ces secteurs font face à un véritable trou d'air qui, en théorie, devrait les conduire à se séparer massivement d'une partie de leurs salariés, leur faisant courir le risque de ne plus avoir les compétences nécessaires le jour où leur activité rebondira. C'est cette crainte qui a conduit, il y a quelques semaines, le patronat et plusieurs syndicats de la métallurgie à imaginer un dispositif transitoire dont le gouvernement a repris les grandes lignes dans sa loi de prolongation de l'état d'urgence. Alors, en quoi consiste ce dispositif qui devrait être précisé cet après-midi par Emmanuel Macron? Il s'agit d'une aide de l'État qui pourrait être versée pendant 2 ans aux entreprises pour leur permettre de continuer à payer leurs salariés à la manière de ce qui se fait aujourd'hui avec le chômage partiel. Mais attention, en contrepartie d'engagements sur l'emploi, ces engagements devant être scellés par un accord majoritaire avec les syndicats. Alors il y a 2 points en particulier sur lesquels les partenaires sociaux attendent des précisions. Le montant de l'aide sera-t-il plus faible que le dispositif actuel du chômage partiel? Et puis, 2e point, les engagements sur l'emploi. Les licenciements seront-ils interdits? Pas nécessairement, semble-t-il.
Olivier Sama.
La justice avec le procès du médiateur.
Deuxième jour des réquisitions dans ce scandale sanitaire qui a fait des milliers de victimes, dont certaines sont décédées. Le parquet a demandé 8 200 000 euros à l'encontre du groupe Servier qui fabrique ce médicament commercialisé pendant 33 ans, Chloé Triomphe.
Oui, c'est le maximum que permet la loi, mais pour les victimes et leurs avocats, c'est loin d'être suffisant pour sanctionner ce que la procureure a qualifié de volonté délibérée et jusqu'au boutiste du groupe Servier de tromper patients, médecins et autorités sanitaires sur la nature réelle du médicament. C'est le sentiment de Lisa Boussineau, dont la mère est décédée des conséquences de la prise de Mediator durant des années.
J'estime que le signal n'est pas assez fort pour les victimes et pour les citoyens qui sont concernés par cette affaire. J'attendais en fait la peine complémentaire prévue par le code pénal, qui est l'interdiction de gérer des laboratoires Servier en France. Je pense que ça aurait été une manière forte de dire que ce qui s'est passé doit être condamné et pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus à l'avenir.
Pas d'interdiction d'exercer requise pour le laboratoire. Un regret pour les parties civiles qui, pour compenser le plafond des amendes prévues par la loi, demandent des indemnités de plus de 500 millions d'euros pour les victimes, un montant proche des 579 millions d'euros de chiffre d'affaires du Mediator sur toute sa période de commercialisation.
Merci Chloé Triomphe. On l'a appris il y a moins d'une demi-heure, le ministère de l'Agriculture suspend l'agrément de l'abattoir ovin de Rodez, dénoncé par l'association L214.
Association qui diffuse de nouveau des images choc dans la fabrication du Roquefort. Une plainte est déposée pour sévices graves sur les animaux de ce site déjà épinglé il y a 4 ans.
Des conditions d'élevage et d'abattage d'un million d'agneaux totalement épouvantables, car oui, pour le lait de brebis nécessaire au Roquefort, il faut aussi des agneaux. Explication de Virginie Salmen.
Pour fabriquer du roquefort, il faut du lait de brebis, donc des agneaux, pour stimuler la lactation de la mère. 1 million d'agneaux par an, dont la moitié, les mâles, partent dans le circuit de la viande, dans des fermes usines de plusieurs milliers de bêtes, selon Brigitte Gauthière, cofondatrice de L214, et abattues dans des conditions qui ne respectent pas la réglementation.
Souvent, le fromage, le lait, on a une image assez sympathique en se disant, traire une vache, traire une brebis, ça ne crée pas de grands dommages à l'animal, ce n'est pas une souffrance extrême. Mais on ne se rend pas compte en fait que pour obtenir ce lait, il y a beaucoup d'autres opérations derrière.
Tout autre son de cloche du côté des éleveurs de la filière Roquefort.
Jérôme Faramont, je suis d'abord éleveur de brebis et président de la Confédération Générale de Roquefort.
Et lui, ça n'est pas du tout la réalité qu'il vit.
Effectivement, le Roquefort a une notoriété nationale voire internationale. C'est facile par rapport à L214 d'associer à des images, d'associer le mot Roquefort. Et derrière, c'est sûr, c'est un coût médiatique garanti pour eux. Mais moi, ce que je déplore là-dedans, c'est que derrière le Roquefort, il y a des éleveurs. Les dommages collatéraux sont juste incompréhensibles pour nous et fortement injustifiés.
Les accusés sont donc à nouveau les dirigeants d'abattoirs.
Virginie Salmen.
Il est midi 48. Une dernière pause et dans un instant, la location de piscine entre particuliers qui cartonne et le premier prix littéraire Europe 1 GMF. A tout de suite. Il est midi 50, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag. Et un phénomène nouveau avec le Covid-19 et l'interdiction des piscines. Voilà que la location de piscines entre particuliers cartonne.
Ouais, viens chez moi, j'habite dans une piscine. On pourrait d'ailleurs détourner la chanson. Mais c'est vrai qu'avec ces fortes chaleurs, beaucoup d'heureux particuliers vont profiter, font profiter les voisins alentour. Attention, tout cela est évidemment tarifé. Hélène Terzian est allée faire l'expérience du côté de la Seine-et-Marne. Reportage.
Bienvenue à la maison. L'eau est à 30 degrés, donc elle est vraiment juste exceptionnelle.
Merci.
On espère que ça vous convient.
Très bien.
Franchement, c'est comme sur les photos.
Elles en ont rêvé pendant le confinement, ont salivé devant leur écran. C'est enfin derrière leurs lunettes de soleil qu'Emma et ses copines voient la piscine de Nicolas.
Je me sens capable de sauter du premier coup.
Mais avant, Emma, des recommandations sanitaires.
Nous, on a nettoyé absolument tout ce qu'il y a, transat et tout est clean. On
respecte les distances.
Voilà, ça vous va ?
Oui, très bien, merci.
Voilà, super.
Ouais ! Elle est trop bonne, j'aime trop. Je ferme les yeux et je suis en Espagne, à Cuba.
Sauf que c'est bien moins cher. 38 euros par personne la demi-journée et à seulement 20 minutes de chez elle. Filon idéal aussi pour Honorine qui télétravaille sur le transat.
Entre deux plongeons, je peux recevoir un appel d'une de mes collègues.
Mais il faudra peut-être pas mettre la visio.
Je vais éviter.
Allô Honorine, allô.
Amusé depuis sa véranda, Nicolas se réjouit déjà de pouvoir offrir très vite de nouveaux moments comme celui-ci.
Il y a une très forte demande, entre 10 et 12 demandes, rien que là pour les 3 jours à venir.
Boosté par l'arrivée des très beaux jours, la location de piscine devient aussi une option pour ceux qui ne partiront pas cet été.
Et plouf, Hélène Terzian.
Et pour terminer ce journal, la sélection du premier prix littéraire européen GMF.
C'est le lauréat du premier prix littéraire qui sera donc dévoilé ce soir. Ils sont 5 en lice, 5 romans qui mettent en scène des hommes et des femmes au service du collectif. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Pierre.
Vous êtes le critique littéraire d'Europe 1. Comment est venue l'idée de ce prix ?
En fait, c'est une rencontre avec GMF. GMF, vous savez qu'ils mettent souvent en valeur l'humain. Mais l'humain, ça ne veut rien dire. Au fond, c'est le pire et le meilleur. L'humain, on le sait tous.
Surtout dans les polars que vous affectionnez.
Mais surtout dans la littérature, c'est ça la littérature, c'est l'exploration du pire et du meilleur de l'humain. Mais si, enfin Pierre. et donc, avec ce constat-là, GMF voulait faire un prix littéraire avec nous, mais avec une consigne quand même, c'est moi qui choisissais les livres de la sélection, mais avec une consigne, c'était justement de mettre en valeur l'humain, et alors c'est plus largement un élan collectif, voilà, une mise en valeur de la solidarité, quelque chose
ce qui est dans l'air du temps en ce moment.
Ce qui est dans l'air du temps, je me suis dit fastoche, dans les romans je vais en trouver plein, et ben pas tant que ça, j'ai épluché les 400 romans de la rentrée littéraire de janvier, j'en ai choisi 10, ça a été ramené à 5 ensuite pour la sélection, et puis le jury s'est réuni, le jury c'est le patron de GMF, notre grande patronne d'Europe 1, Constance Binquet, et puis il y a deux auditrices d'Europe 1, parce qu'il y a eu 400 candidatures d'auditeurs d'Europe 1 pour participer avec l'aide de motivation et tout. Et franchement, il y a des pépites là-dedans.
Et les 5 livres alors ?
Il y a Sophie Lermoyer, Patrick Cohen. Et les 5 livres, alors il y a Karl Aderholt, je vous les donne dans l'ordre alphabétique. Hein. Karl Aderholt qui a publié Le Théâtre des Nuits chez Stock. C'est l'histoire des comédiens qui sont partis au front pendant la Première Guerre mondiale. C'est basé sur l'histoire, la vraie. Et c'est hyper romanesque, c'est vachement bien. Il y a Hugo Boris.
Pour détendre les soldats ? C'était pour.
C'est
les
ça, abuser. Exactement. C'est, hein, ça. C'est ça. Alors du coup, si on a un peu de temps, je peux développer, mais il y a quelques conditions. Par exemple, il ne fallait pas qu'il y ait de contact entre les comédiennes et les soldats, pour des raisons évidentes. Il ne fallait pas qu'il y ait des comédiens trop jeunes, parce que les poilus se seraient dit, mais attends, pourquoi il n'est pas mobilisé, ouais, celui-là ? Et puis surtout, pas faire de pièces patriotiques, des pièces légères, des vaudevilles, pour que, voilà, que ça détende l'atmosphère. Il y a Hugo Boris aussi, chez Grasset, Le Courage des Autres. Magnifique le titre, Le Courage des Autres. C'est l'histoire d'un champion de karaté, ceinture noire, c'est sa vraie histoire, celle d'Hugo Boris, qui a écrit aussi Police, qui avait été adapté au cinéma. Ouais. Et dans Le Courage des Autres, donc il est ceinture noire de karaté, et un jour dans le métro, il y a une altercation violente, et il est pétrifié par la peur. Et donc il se met à noter tout ce qu'il voit dans le métro de beau et d'héroïque et de poétique.
Il y a l'humain là-dedans.
Exactement, bah, plus qu'il n'en faut. Il y a Claire Fercac, Ce qui est nommé reste en vie, qui est une sorte de récit sur l'accompagnement dans la fin de vie. Ce qui est nommé reste en vie. Vous imaginez ce titre quand même, c'est beau.
Et Claire Fercac qui était attachée de presse littérature, qui absolument devient romancière. Ouais. Donc ça, c'est quand même pas mal pour elle.
Monsieur le maire, au cherche-midi de Pascal Grégoire, ça c'est un polar très intéressant où on explore le quotidien d'un maire d'une petite ville. Et puis Pascal Rose prix Goncourt en 96, qui signe La Belle Hélène chez Stock. C'est l'histoire d'une prof de lettres à Sciences Po qui essaye de faire passer son amour de la littérature à des étudiants qui a priori sont un peu loin de tout ça, ils sont dans leur truc Sciences Po, vous voyez, mais elle leur fait passer l'amour de la littérature et des écrivains.
5 livres, 5 lauréats potentiels, un seul sera retenu. Ça se passe ce soir ou
ce
ça
soir 17h30 Facebook Live, il y a une cérémonie de remise.
Merci beaucoup Nicolas Caro.
Et merci Pierre de Villeneuve. On vous retrouve demain à partir de midi.
À demain.